Bonjour et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain c'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuset sous haute pression de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Et désespérée, Margaret Buber-Neumann aurait eu de quoi l'être. Déportée en Sibérie puis à Ravensbrück, elle aura connu à la fois l'horreur stalinienne et la barbarie nazie. C'est à Ravensbrück qu'elle rencontrera Milena Jesenska, la Milena de Kafka, et lui promettra de transmettre son histoire. La semaine dernière, je cherchais un jeu à offrir à des amis et je suis tombée sur un jeu de cartes qui s'appelait « C'est quoi le pire ?». Il y avait des questions comme « C'est quoi le pire ?», marcher dans une crotte de chien ou te prendre une crotte d'oiseau sur la tête. Et si vous voulez mettre l'ambiance à l'apéro, je ne vous conseille pas « C'est quoi le pire ?» Karaganda ou Ravensbrück, le goulag ou les camps d'extermination. Il n'y a qu'une personne qui a témoigné des deux et ce triste privilège en revient à Margaret Buber-Neumann. Remontons à la fin de la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles. L'Allemagne, vaincue et exsangue, ruinée et instable. 3 millions d'Allemands sont morts au cours de la Première Guerre mondiale ou de l'épidémie de grippe espagnole qui a suivi. La République de Weimar peine à se maintenir entre la montée des milices d'extrême droite et la gauche révolutionnaire, inspirée par l'exemple bolchevique en Russie. Née en 1901 à Potsdam, Margaret Buber-Neumann, qui s'appelle alors Margaret Thuring, est aux premières loges. Pendant ses études, dans les années 1920, elle rejoint le Parti communiste d'Allemagne. Elle épouse en 1922 Raphaël Buber, le fils du philosophe Martin Buber. Ils auront 2 filles et divorceront 7 ans plus tard. Elle travaille alors à l'Imprekor, Internationale Presse Correspondence, le journal du Comintern, la section internationale du parti bolchevique, qui traduit des articles de révolutionnaires du monde entier. C'est là qu'elle rencontre Heinz Neumann, un intellectuel stalinien qui revient à ce moment-là de Chine après l'échec sanglant de la commune de Canton. En 1929, il est député du Reichstag, opposé aux nazis. En 1932, il perd son siège et Staline l'envoie un moment en Espagne pour suivre au nom du Comintern les Républicains. Margaret l'y retrouve, elle aussi agent de Staline, puis l'accompagne dans les exils suisses et français. De 34 à 37, ils vivent en URSS et découvrent la terrifiante réalité du régime stalinien. L'enfer commence réellement pour Margaret en 1937, lorsque Heinz est arrêté et qu'elle est condamnée, comme ennemie du peuple, aux travaux forcés à Karaganda. L'histoire est plus cruelle encore. En 1940, Margaret Buber-Neumann, la femme d'un des plus grands opposants au nazisme, est livrée par Staline aux nazis, dans le cadre d'un échange de prisonniers prévu par le pacte germano-soviétique. Elle est envoyée à Ravensbrück. Et il rencontrera la résistante Germaine Tillon, qu'elle sauvera d'une mort certaine, et Milena Jesenská, journaliste tchèque, ancienne maîtresse de Kafka. Elle écrira d'elle, « Milena faisait partie du petit nombre de celles qui ne peuvent devenir indifférentes ou insensibles. » Et c'est par un miracle de volonté qu'elle survit jusqu'en avril 1945 et parvient encore à échapper à l'avancée des troupes soviétiques. C'est donc après 10 ans de détention, au Goulag et à Ravensbrück, qu'elle commence à écrire pour témoigner. Elle publie le premier tome de Prisonnières de Staline et d'Hitler, déportées en Sibérie, en 1949. Le second tome, déportée à Ravensbrück, ne sortira qu'en 1988. Entre-temps, elle écrit La Révolution mondiale, l'histoire du Comintern 1919-1943, racontée par l'un de ses principaux témoins, et Milena, sur sa rencontre avec Jesenská. Elle meurt 3 jours avant la chute du mur de Berlin. Pour célébrer son rôle de témoin et son long calvaire, Nuit et brouillard de Jean Ferrat, dont le titre est bien sûr une allusion au Nachtunnebel, les prisonniers politiques exterminés en secret par les nazis.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dés avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans rate du temps,
survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours, de roues, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, regardant au loin, regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Me dit à présent que c'est mon oncle Gour, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
C'était Nuit et brouillard, écrite, composée et chantée par Jean Ferrat. Nous avons parlé du rôle de Margaret Buber-Neumann comme témoin de la barbarie, mais j'aimerais aussi parler d'elle comme femme engagée, militante communiste et écrivain, avec un passage de son livre le moins connu, La Révolution mondiale. Elle choisit en épigraphe cette citation de Condorcet : « Ils m'ont dit, choisis, bourreau ou victime, j'embrasse l'échafaud, je leur laisse le crime. » Nul doute qu'elle se soit reconnue dans ces vers du grand philosophe des Lumières, tué par la Convention nationale. J'ai choisi un extrait du début sur sa rencontre avec Heinz Neumann. Dans La Révolution mondiale, l'histoire d'une Comintern racontée par l'un de ses principaux témoins. À peu près à l'époque où le putsch de Cap ébranlait la jeune République de Weimar, un jeune homme entrait dans une maison sordide de la vieille Jakobstrasse à Berlin. Il avait 18 ans, était de taille moyenne, extrêmement mince et gracile. Sur le front haut et large tombaient des cheveux châtains récalcitrants. Ce qui frappait le plus dans ce visage d'adolescent, c'était les grands yeux bleus, que surmontaient des sourcils fortement arqués. Le nez était court et puissant, la bouche petite, le menton bien formé, quoique peu proéminent. Au premier étage du bâtiment se trouvait le bureau de l'Association de la jeunesse communiste et une partie de la direction locale du KPD de la Fédération de Berlin-Brandenburg. C'est là que résidait aussi Karl Gröhl, qui était alors le responsable militaire du secteur. C'est lui qui avait convoqué le jeune homme. Celui-ci était d'abord passé à côté de l'escalier sans monter et était resté debout dans un coin sombre de l'entrée. Il était intimidé par les manières des camarades du KJVD, si différentes des siennes, par leur crânerie, leur assurance, leur familiarité et leur camaraderie, totalement étrangères à son éducation bourgeoise, par leur ridicule langage de secte qui évoquait beaucoup le jargon des associations de jeunesse libérale allemande. Comment aller l'accueillir Gröhl, dont il avait déjà fait connaissance? Gröhl l'accueillit aimablement, comme aussi la secrétaire du KJVD à laquelle le responsable militaire confia le jeune homme. Dans les jours et les semaines qui suivirent, il eut, comme tous les autres venus comme lui, offrir leur concours, à écouter des conversations qui duraient des heures et à attendre qu'on lui confiât quelques tâches. Coller des affiches, distribuer des tracts, se hâter d'un quartier de la ville à l'autre comme messager. Rien ne laissait prévoir qu'ainsi venait de commencer une carrière dans le parti qui devait le mener trop tôt au sommet et lui coûter la vie à l'âge de 35 ans. Le jeune homme se nommait Heinz Neumann. L'époque où il était né avait été pacifique, celle où il avait grandi, orageuse. Au début, ce n'était pas la politique qui l'avait intéressé. Lorsqu'il avait 15 ans, Heinz Neumann se grisait de littérature, écrivait des poèmes et traduisait la poésie lyrique étrangère. En d'autres temps plus paisibles, Neumann serait sans doute devenu philologue. Il possédait en effet bien des traits du savant de cabinet. Il devait très vite déclarer la guerre à cet aspect de sa personnalité. Son autre moi, celui qui poussait à l'action, qui était dominé par le besoin de s'affirmer, qui aspirait à la révolte et au dévouement passionné, prit le dessus. À Berlin, après 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, on pouvait difficilement s'arracher aux événements politiques. L'atmosphère de ce temps-là obligeait les hommes, même les jeunes, à prendre position, à se réclamer d'une vision du monde et à se mettre à son service. En 1918, Heinz Neumann eut 16 ans. Jamais plus la guerre. Lui qui n'avait de la guerre et de ses horreurs qu'une connaissance théorique, c'est ce cri de ralliement de la gauche qui le lança dans la politique. Cela commença avec Le Feu, le roman pacifiste d'Henri Barbus. Comme c'était un lecteur passionné, il cherchait dans le flot des écrits de propagande, des brochures, des tracts, des journaux et des livres, tous les arguments les plus convaincants contre la guerre. Très vite, ce furent les publications communistes qui le retinrent. Ce sont leurs raisonnements qui exercèrent sur lui la plus forte influence. Esprit systématique, il ne pouvait se satisfaire des romans, des pamphlets et des journaux. Il recherchait des écrits politiques fondamentaux. Il lut tout ce qu'il pouvait trouver sur la Russie soviétique et succomba à l'attrait magique de la Révolution d'octobre, qui représentait alors le problème décisif pour tous ceux qui croyaient à un progrès. Le père de Heinz Neumann était un bon bourgeois, et comme pédagogue, il était résolument conservateur. Il ne l'était pas seulement dans les questions d'éducation. Tout ce qui était de gauche le remplissait de méfiance et lui inspirait de l'aversion. C'est peut-être aussi pour cela que Heinz se tourna précisément vers ce que son père refusait catégoriquement. Un dernier problème peut avoir contribué à son orientation vers le communisme. Sa famille était juive, mais sans y mettre aucune insistance particulière. Depuis des générations, elle s'était assimilée. Dans son plus jeune membre, ce processus d'assimilation semblait avoir atteint le stade où le dilemme revient à la surface et fait apparaître à nouveau la condition de juif comme un problème, ou pour ainsi dire comme l'image négative d'un problème. Tandis que, sans l'ombre d'une réserve intérieure, les parents de Neumann faisaient profession d'un judaïsme libéral et ouvert au monde, bien qu'ils se considérassent comme des citoyens allemands avec tous les droits et tous les devoirs que cela impliquait, tout lien avec le judaïsme faisait visiblement défaut à Heinz Neumann. Au contraire, il fit tout pour faire oublier son origine juive. Son apparence physique lui vint ici sans aucun doute en aide. Il lui manquait tout ce que l'allemand moyen se représente sous les mots de « type juif ». Je ne lis qu'un seul extrait pour vous laisser découvrir le reste de l'œuvre de Margarete Buber-Neumann et pour donner la parole à notre invité, que vous connaissez. Monsieur Jean-Marc Levent, directeur commercial aux éditions Grasset, est déjà intervenu dans Le Peuple Lu pour parler de Franz Kafka. C'est cet insatiable lecteur qui m'a parlé d'abord de Milena, puis de Margarete Buber-Neumann. Je lui dois sa découverte et cette émission. Monsieur Jean-Marc Levent, bonjour.
Bonjour Laura Simoni.
C'est vous qui m'avez fait découvrir Margarete Buber-Neumann. Vous êtes intervenu dans l'émission pour parler de Kafka, ce qui a mené à une discussion passionnante, puisque vous êtes passionné, et de Kafka à Milena, de Milena à Margarete. Nous en sommes venus à cette émission. Mais donc, moi, je ne la connaissais pas et je m'interroge, pourquoi est-ce que le témoignage de Margarete Buber-Neumann est aussi peu connu aujourd'hui ?
Je pense qu'il est peu connu parce qu'on a, tardé avant de la publier. C'est-à-dire, il y a eu tout d'abord ces témoignages de déportés, puisqu'elle avait publié un livre en deux volumes qui était prisonnière de Staline, puis prisonnière d'Hitler. Le premier volume était consacré, donc c'était déporté en URSS, et l'autre c'était déporté à Ravensbrück. Et ces témoignages qui ont été en fait publiés tardivement, et elle a été, je pense, à l'époque de l'affaire Kravchenko, elle avait témoigné en faveur de Kravchenko, et il y avait eu un tel déchaînement, notamment dans les lettres françaises à cette époque-là, que son témoignage avait été discrédité, disqualifié, décrédibilisé. Et je pense que les livres qui s'en sont en suivis ensuite, enfin, quand sont en suivis, ont souffert de cette période dans laquelle sa parole a été mise en doute.
Quelque part, c'est un deuxième exil par les staliniens.
Oui.
Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un héritage de Margarete Buber-Neumann ?
Alors, un héritage de Margarete Buber-Neumann, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un que je pense qu'il faut lire et qu'il faut relire, parce qu'elle cristallise, elle, toute seule, enfin, presque, enfin, ils ne sont pas très très nombreux, tout ce que le... Tout ce que le XXe siècle a traversé, c'est-à-dire à la fois le nazisme et le stalinisme, pour ensuite évoluer vers des formations, enfin une formation politique social-démocrate. Très rapidement, elle naît en 1901, elle est dans les années 20, elle épouse l'un des fils de Martin Buber, dont elle va divorcer quelques années plus tard, donc elle l'épouse en 1922, elle a deux filles de lui, elle divorce en 1928, et elle va ensuite épouser Heinz Neumann. Heinz Neumann, on est en Allemagne, à Berlin, c'est un membre éminent du Parti communiste allemand, sauf que quelques années après, il va s'opposer à la politique de Staline à l'égard des nazis. Donc le Parti communiste allemand va décider de l'exfiltrer, de l'envoyer en Espagne, pour ensuite, lorsque Hitler arrive au pouvoir, donc en 1933, les faire revenir et les envoyer directement à Moscou. Sauf que après la signature du pacte germano-soviétique, Staline s'était engagé à renvoyer les communistes allemands, dont ils vont faire partie. Avant ça, on est en 1940, quand il retourne, j'ai sauté une étape importante, pardon. Heinz Neumann va être victime des purges de 1937, elle-même sera arrêtée en 1938 par le NKVD, elle sera déportée dans un goulag au Kazakhstan. On arrive ensuite en 1940, le pacte germano-soviétique a été signé, elle est renvoyée en Allemagne, où là elle va être directement internée dans le camp de Ravensbrück, où elle restera pendant 4 ans, et où elle fera la connaissance donc de Milena Jesenska, qui donnera naissance 20 ans plus tard au livre éponyme. Et elle aura un destin un peu particulier, puisqu'elle sera à un moment donné la secrétaire d'une gardienne de camp peu sympathique au début, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui va évoluer, qui va, je pense, cette femme qui s'appelait Johanna Langesfeld mériterait une biographie à elle toute seule, et qui va évoluer vers une forme de compréhension à l'égard de certaines détenues. Elle sera relevée de ses fonctions, elle-même incarcérée, puis à la fin de la guerre, elle sera envoyée en Pologne pour être jugée, Pologne dont elle s'évadera pour finir sa vie ensuite en Allemagne au début des années 70. Parallèlement à ça, Margaret Bernemann, elle va évoluer, donc après sa libération, donc on est là en 1945, elle va faire ce qu'elle a appelé elle-même le voyage de la liberté, c'est-à-dire elle sera libérée de Ravensbrück pour partir à Tierstein où étaient ses parents, donc c'est 450 km, traversée de l'Allemagne, 450 km, en vélo et en train, où ensuite elle s'établira, puis militera au SPD, et progressivement elle deviendra membre de la CDU et mourra 3 jours avant la chute du mur, le 6 novembre 1989. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a connu toutes les tragédies du XXe siècle. Quant à son héritage, je pense qu'il faut la lire, et voilà, c'est là où on mesure, vu de l'intérieur, je pense qu'il faut continuer à lire des gens qui ont, voilà, qui, que ce soit des retours de camps de concentration, des retours de camps d'extermination, des retours de goulag, enfin, il y a une nécessité pour à la fois pour ne pas oublier, mais ne pas oublier pourquoi faire, c'est-à-dire ne pas oublier pour essayer de comprendre comment l'aveuglement peut conduire à de telles catastrophes.
Et justement, j'aime beaucoup cette formule ne pas oublier, mais pourquoi faire. Là, je m'adresse plus à l'auteur des Ânes Rouges. Le livre a été publié en 2003, mais son résumé est très prometteur, puisque vous partez d'un propos d'Alain pour mettre en lumière les figures qui, dans l'institution philosophique en France, l'ont critiqué pour réinventer, réformer l'enseignement de la philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, après les témoignages de Buber Neumann, est-ce qu'aujourd'hui, après le goulag, les corps d'extermination, il faut repenser l'enseignement de la philosophie politique, l'enseignement de l'histoire en France?
L'enseignement de l'histoire, je ne sais pas, pour ce qui est de l'enseignement de la philosophie, il y a une spécificité de l'enseignement philosophique. Alors vous me direz, il y a une spécificité pour chacun des enseignements. À la différence des autres enseignements, la philosophie ne se transmet pas de la même manière que vous transmettez les mathématiques, l'histoire, la géographie ou les sciences naturelles. D'ailleurs, il n'y a pas de il n'y a pas de classe de sciences naturelles, il n'y a pas de classe d'histoire, il y a simplement un cours. Donc c'est un cours dans lequel un enseignant va transmettre effectivement un certain nombre de notions, de concepts, mais en même temps va amener des élèves. En France, on a la chance d'avoir une classe de philosophie qui couronne l'ensemble d'un cursus scolaire qui est en classe de terminale, même s'il y a quelques tentatives qui ont été faites dans le passé et peut-être encore aujourd'hui en classe de première. Mais l'idée est quand même d'amener ces élèves qui ont 17-18 ans à penser par eux-mêmes. Donc c'est pas simplement la transmission d'un contenu, mais c'est essayer d'élaborer aussi une pensée en trouvant un juste équilibre entre le cœur d'un côté et la raison de l'autre.
Mais je m'interroge quand même quand on dit que l'enseignement de la philosophie, c'est d'abord d'aider les élèves à penser par eux-mêmes, de leur donner les moyens de penser par eux-mêmes. Est-ce que justement, après Karaganda, après Ravensbrück, il n'y a pas des lignes rouges et un contenu qui cette fois relèverait de la morale et non plus de l'éthique, de l'enseignement philosophique, ou en tout cas de l'enseignement de la philosophie politique?
Oui, mais ça peut s'inscrire dans cette tradition pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un contenu, c'est-à-dire on fait référence tout comme on étudie l'esthétique d'Hegel ou le banquet de Platon ou Tétète, ou il y a un contenu, évidemment c'est pas simplement la pensée pour la pensée, ce qui serait déjà beaucoup, mais c'est à partir de quel texte la pensée peut-elle se nourrir, et ça c'est quand même une spécificité de la classe de philosophie, enfin de la classe de philosophie, du cours de philosophie, tout dépend comment on l'appelle. À l'époque d'Alain, elle s'appelait la classe de philosophie, mais il était en Cagne, en Hippocagne, à Henri IV. Maintenant,
d'en faire plus un arc, une science, ou en tout cas plus une recherche scientifique qu'une
transmission de contenu. Oui.
Et en tant qu'éditeur, est-ce que c'est difficile de publier, de transmettre des livres autour de la mémoire, autour de l'horreur des goulags, des camps d'extermination?
J'ai envie de vous dire, c'est presque difficile de publier aujourd'hui. Le livre n'a plus la place qu'il avait il y a encore quelques années, ou même il y a, je sais pas, 30-40 ans, où il était le vecteur quasi exclusif de la transmission. Il y avait aussi la télévision et la radio, bien sûr, mais aujourd'hui on a assisté à une explosion de à la fois de modes de communication, donc de modes de transmission, donc évidemment c'est un petit peu différent, mais On continue de publier des témoignages. Vous l'avez vu récemment, il y a quelques années, avec les souvenirs de Marceline Loridan, avec ceux de Simone Veil, de Ginette Colinca plus récemment, de Francine Christophe également. Enfin voilà, il y a des... Heureusement, on a cette chance-là, c'est-à-dire de disposer encore de témoignages de gens qui ont connu et qui ont été internés. On sait très bien que dans quelques années, ces gens-là ne seront malheureusement plus parmi nous, mais il nous restera les livres, il nous restera les témoignages. Donc oui, il faut continuer de publier, bien sûr.
Et pour vous, donc les livres de Margarete Buber-Neumann ont été un support à la pensée critique
Oui, c'était... Moi, je suis venu en fait à Margarete Buber-Neumann par la publication, parce que Milena a été publiée en 1963 en Allemagne, mais il paraîtra 23 ans plus tard en France, dans la collection Fiction et compagnie. Donc à cette époque-là, c'était Denis Roche qui publiait cette collection. Et il se fait que j'avais un très très bon ami à qui on avait demandé de traduire. Il faisait des traductions pour l'édition. Et on lui avait demandé de traduire, et il m'avait proposé de lire le texte. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de Margarete Buber-Neumann, de Milena un peu plus. Et donc j'avais lu le texte avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça a été déterminant pour des raisons personnelles, puisque aujourd'hui l'aîné de mes enfants porte le prénom de Milena. Voilà.
C'est parmi toutes les œuvres de Buber-Neumann, Milena est peut-être celle qui semble la plus accessible. C'est celle que vous recommanderiez à quelqu'un qui ne l'aurait jamais lue?
Oui, c'est celle que je recommanderais si la personne s'intéresse à Kafka. Par contre, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du XXe siècle, ou à l'histoire tout court, ou à l'histoire de l'Allemagne, à l'histoire de l'ex-URSS, il faut lire Prisonnier d'Hitler et de Staline, qui sont vraiment des livres très 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 importants. Et peut-être pas d'ailleurs l'équivalent.
Et je reviens à la question, est-ce qu'on les lit différemment aujourd'hui, à l'heure où on voit apparaître des corps de redressement en Russie, où on voit apparaître de nouveau des déportations de sans-papiers aux États-Unis?
On les lit différemment, sans doute, parce que ça... C'est cette amnésie qui fait écho à ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire on a l'impression que ce qui a eu lieu n'a été important que pour une minorité et qu'on est prêt à recommencer. J'espère que non, mais enfin tout au moins à cautionner encore certains comportements, certaines actions répréhensibles. Voilà.
Donc si j'essaye de résumer, ça va être difficile, mais c'est cette idée que les témoignages, que les livres ne sont pas le seul rempart contre la barbarie et l'inhumanité, mais qu'il faut qu'ils deviennent le support critique de la pensée, d'une pensée vivante, et non pas d'un cours de philosophie, mais d'une classe.
Oui, et puis lire des gens qui ont écrit sur leurs engagements, pas seulement des témoignages, mais des gens qui ont pu écrire sur leurs engagements. Enfin, je pensais pour le communisme, par exemple, mais un livre comme celui d'Edgar Morin, donc Edgar Morin, 104 ans aujourd'hui, a publié en 1958, donc au sortir de sa, enfin quelques années après sa rupture avec le Parti communiste, un livre qui s'appelle Autocritique, dans lequel il revient en fait sur son engagement et comment il a vu autour de lui, et lui-même a été aussi tenté par ça, tentation sans doute involontaire et inconsciente, mais de hurler avec les loups. Enfin, je veux dire, on peut appeler ça comme ça, jusqu'au moment où, bon, heureusement, là.
Oui, vous le mentionniez avec la gardienne de corps qui a fini par évoluer. Mmh. C'est important d'avoir aussi les deux côtés, oui. De voir que la pensée évolue, change, n'est pas statique.
Mais ils ne sont pas si nombreux à admettre qu'ils se sont trompés à un moment donné. Qu'ils ont été dangereux et qu'ils se sont trompés.
Est-ce que vous avez une conclusion, peut-être un tout petit peu plus optimiste pour les auditeurs du peuple lu, même si c'est évidemment difficile lorsqu'on parle de Buber Neumann, de son héritage?
La conclusion, ce serait de surtout continuer de lire et surtout de continuer de s'intéresser à ceux qui nous ont précédés et dont le témoignage est d'une richesse exceptionnelle et à mon avis qui ne se tarira jamais.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Levent, contribuer à ce qu'on continue de lire Buber et Neumann, de contribuer à la fois par votre témoignage, par cet entretien sur Buber Neumann et évidemment par votre travail aussi au sein de la Maison Grasset. Merci beaucoup.
Merci.
Le peuple lu. Nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigonnier.